avec Cass à l'occasion du Festival d'Angoulême. Bonjour.
Bonjour.
Nous allons parler du dernier tome de la série Halloween Blues, donc le tome 7, qui est sorti en octobre au Lombard. Est-ce que vous connaissiez l'issue de cette série avant de commencer à la dessiner, ou est-ce que vous avez eu album par album l'histoire de ce couple infernal ?
Et oui et non, je connaissais dans de grandes lignes, hein, ça c'est vrai. D'abord, Incertitude était absolument posée dès le départ, c'est-à-dire la série va se terminer dans cet album. Hein. Et donc le meurtre de Dana, la question posée sous le premier album, qui a tué Dana Anderson, on a tenu une promesse de livrer la réponse dans le septième album. Expressément, j'ai demandé au scénariste mythique qu'il ne me dévoile pas tous les secrets, voilà, qu'il a gardé assez longtemps, juste pour que je tombe dans la routine, dans quelque chose de mécanique, et que je ne construise pas mon histoire pas à pas, selon un scénario bien tracé, sans possibilité d'improviser ou aller un petit peu à gauche, à droite, parce que c'est ennuyant, tout simplement c'est ennuyant, travailler au fil des années sur un sujet qu'on maîtrise peut-être parfaitement, mais on ne peut pas faire un geste de plus ou de moins. Pour ça, j'ai avancé cette demande. Il était favorable. Moi, j'ai dit, prends ton temps, si tu as des meilleures idées, discutons-en. Donc, oui, je savais. Effectivement, j'avais certains éléments en main, mais pas tout, hein. Pour rien au monde, je voulais pas cette situation.
Alors justement, pour la création de ce personnage, ce spectre, hein, qui est incarné par une actrice qui est donc assassinée au début du premier tome, on suspecte son mari qui est un détective également. Au fil des tomes, on va essayer de savoir ce qui s'est passé, et parallèlement, le mari va mener des enquêtes qui sont tout à fait séparées les unes des autres à chaque album, mais ce fantôme va venir hanter son mari à chaque nuit d'Halloween. Je voulais savoir comment vous aviez construit un petit peu graphiquement ce personnage de Dana.
C'est notre fameux fil conducteur qui consiste à péripéties Forrester et Dana, son épouse assassinée. C'était pas facile, c'est vrai. Il a fallu d'abord, hein, dessiner un fantôme, hein, parce qu'un fantôme, et on est très peu dans ces mondes probablement, de en savoir. Et je demande des avis des gens parfois, ceux qui prétendent de voir un fantôme. Non, évidemment, ça m'a beaucoup amusé de créer d'abord un personnage tellement impossible à cerner quelque part. On le sait dès le départ que c'est une actrice, hein, une star montante de Hollywood. Donc, d'une part, on a voulu tout l'aider, qu'elle porte tous les marques, les signes distinctifs et très prononcés d'une belle actrice de l'année 50, donc quelque part une égérie de 50s. Bon, c'est un essai, j'ai pas de prétention de vraiment créer. Et donc pour la base, évidemment, on a eu en tête plusieurs grandes actrices de cinéma hollywoodien de 50s. Et ce n'est pas une simple fusion, juste des traits particuliers de cette actrice. C'est nettement plus et moins à la fois, parce que c'est quand même une création originelle, si je peux me permettre. Mais portant tous les signes des clichés, quelque part, culturels, entre guillemets, des personnages semblables, donc actrices de cette époque. On a voulu, nous étions vraiment intéressés de passer un message peut-être augmenté dans densité et intensité, un message venant des 50s, qu'une femme ronde, qu'une femme resplendissante, c'est aussi quelque chose qui peut charmer le lecteur d'aujourd'hui. Donc on est passé autre des préjugés.
Vous avez carrément créé une ambiance complètement 50s au niveau du dessin. Vous aviez comme influence Norman Rockwell ou non ?
Non, écoutez, c'était un peu tout. Hein. Moi, je me suis inspiré de films, de la littérature, du vécu, parce que je suis un monsieur pas très 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 jeune. C'est-à-dire, non, je suis né au bon milieu des années 50, et en plus dans un pays qui c'était sûrement pas Hollywood, donc que les traits des vrais 50s américains étaient inexistants. Par contre, ouais, nostalgie. Aujourd'hui, on trouve tout comme documentation là-dessous. Donc, évidemment, il avait plusieurs sources d'inspiration, d'influence. Mais c'est un monde à la fois probablement convaincant, c'est ce qu'ils disent les gens, les lecteurs, hein, qu'il y a une véracité de transfert des idées. Donc évidemment, il y a des caractéristiques de chaque État. Aux États-Unis, ils sont différents quand même, au niveau de paysage, architecture, les bagnoles, les vêtements, toute ambiance. J'en suis vraiment bien documenté, mais pas plus que ça, c'est-à-dire que ce n'est pas le but. Donc voilà, c'est un décor qu'il faut planter, qu'il soit crédible. Il vaut mieux qu'il soit crédible pour que le lecteur rentre dedans et qu'il ait envie de rester vraiment. La simple nostalgie ne suffit pas. Donc c'est probablement une pilule de condenser de ce qui peut charmer dans ces années, parce que je me suis dit, bon, pour les choses parfois pas très jolies qui se passent, hein, là-dedans, au moins un décor qui est quelque part séduisant et nous met en confiance, parce que c'est plutôt une Amérique profonde. On n'est pas dans une grande ville, on est dans là où il y a la vraie Amérique. Donc pour moi, ce côté très humain et très sympa de ce décor, hein, reste en contraste avec atrocité parfois, parce qu'on a deux ou trois albums où se passent des choses franchement abominables. Hein. On essayait graphiquement de ne pas tomber dans le piège pour ne pas choquer le lecteur, mais il se passe pas de jolies choses et tout. D'ailleurs, pour moi, le choix des années 50, ici, c'est très fondé. Pourquoi? Parce que c'est pour planter, voilà, le décor. Hein. L'histoire pouvait se passer même de nos jours. Hein. Elle est universelle. Hein. Par contre, un fantôme dans un monde, dans un plein consommérisme, en naissance, hein, parce que là, c'était, on a l'Amérique, le monde entier, mais surtout l'Amérique, hein, qui menait, qui a joué le rôle de meneur économique, politique et tout, et des mondes après-guerre, a tombé dans un consommérisme exacerbé. Et on continue comme ça un petit peu jusqu'à présent. Et là, je trouvais que c'est très chouette dans un monde très cartésien, très focalisé sur l'argent, sur la science. On est parti chercher des cailloux sous la lune et en même temps on a un fantôme d'une artiste assassinée. Pour moi c'était pour mythique, hein, c'était très drôle, très contrasté, très inédit, je vais dire. Hein. Dans ce monde très rationnel, hein. Franchement, des principes intellectuels, économiques et tous les autres techniques, n'est-ce pas, donnés par des scientifiques, hein, surtout, et politiciens, mais surtout scientifiques. Donc, là, il y a quelque chose qui cloche, qui est peut-être encore plus frappant par cette différence.
Du coup, ça vous a fait plaisir, en fait, d'avoir quelque chose de très réaliste avec une touche fantastique comme ça qui intervenait ?
Exactement, c'était mon souhait. Je sortais d'une série, après cet album de la série science-fiction, à l'ancienne, donc la série Hans, avec André-Paul Duchâteau. Et puis, vu mon parcours encore en Pologne, je faisais beaucoup de BD très centrés sur l'ambiance fantastique, donc soit science-fiction, soit carrément fantasy. J'ai eu peur de ne pas trouver mes repères dans un monde totalement dépourvu de cette touche. Donc, vous avez joliment dit une touche fantastique. Oui. C'est vrai. Et je n'ai pas demandé. Il m'a proposé ce sujet mythique. Mais ce sujet, c'était une réponse à l'idée très vague que j'ai jetée. Parce qu'il m'a posé bien auparavant une question. C'est quoi ce qui t'intéresse, hein, comme scénario? En me proposant d'abord autre chose. Hein. Et là, je n'étais pas très emballé. J'ai dit non, écoute, c'est pas vraiment mon truc, ma tasse de thé. Et il m'a dit, c'est quoi ce qui t'intéresse? Et là, j'ai jeté exactement comme vous dites. Hein. Quelque chose de très réaliste, je sais pas quel sujet est très réaliste, parce que là je peux me donner tout, hein, au niveau de dessin, mais avec une touche du fantastique pour garder un petit peu pour assurance quelque part, parce que ça c'est ce que j'aime bien, je sais. Et là, il m'a dit oui, j'ai quelque chose qui va probablement coller exactement à ton souhait, et effectivement on est parti très très vite, parce que là, sur le coup, après quelques phrases qu'il m'a sorties, quel sujet et comment on voit la chose, je dis oui, développe-moi ça, je suis preneur sur le coup. Hein. Évidemment, deux semaines plus tard, j'ai eu, parce qu'il était fort avancé sur cette idée-là, donc j'ai déjà eu plus qu'un synopsis, hein, tout un récit bien détaillé. Après, il a passé au découpage, donc à la construction des pages, et moi, j'ai déjà gribouillé autour des personnages.
Au niveau de la technique, vous avez utilisé quoi pour dessiner?
Très classique dans ce cas, du papier, l'encre, des chines, des plumes, des pinceaux, des crayons. Non, parce que c'est très classique. Et pour être bref, à l'ancien, c'est-à-dire même coloriage sous le bleu. Ici, je rends hommage à des efforts artistiques de ma femme, parce que c'était le pinceau pour le coloriage. Et moi, je me réserve illustration, page-titre, la couverture qui est faite à l'huile, mais Bon, c'est pas la technique qui va jouer un rôle ici. La technique nous sert à mieux passer les messages, c'est-à-dire pour le rendu, on choisit une technique. Et donc, la couleur à la gouache est en partie à l'aquarelle, faite sous le bleu, donc c'est vraiment à l'ancienne, très classique, et le dessin assez épuré, aussi classiquement traité par la plume et le pinceau. Là, je jugeais que les moyens classiques sont suffisamment efficaces, et il fallait pas chercher plus loin, quoique, évidemment, hein. Un autre aurait pu faire ça tout à fait différemment. C'est les moments où on voit de pouvoir donner le meilleur de nous et qu'on utilise les moyens les plus appropriés. Ben bon, ce n'est qu'une conviction, mais en partant des convictions, on arrive à faire des choses quand même valides et importantes.
Au niveau des dédicaces, là, vous savez ce que vous allez dessiner sur les albums, vous allez laisser le public demander?
Public demande, effectivement, mais j'essaie d'un petit peu mettre un peu d'ordre, hein, parce que sinon, hein, parfois il y a des sujets hallucinants, pas possible, hein, qu'il me sort. Hein. Aujourd'hui, j'ai commencé par un paysage enneigé donc un petit bout d'Amérique enneigé, oui, parce que il neigeait un petit peu sous Angoulême, hein. C'était très éphémère, mais quelqu'un a eu l'inspiration. Et dès que c'était un quasi-ami, un des organisateurs d'un festival très sympa, donc j'ai un petit peu cédé devant cette demande. Je lui ai fait effectivement un joli morceau d'Amérique enneigée, mais sinon, c'est évidemment, ça ne peut pas se faire comme ça dans ces conditions. Hein. Il y a trop de gens qui attendent, il y a une demande très soutenue, donc il faut aller assez vite, raisonnablement vite. Donc c'est surtout les personnages. Hein. Et les gens, effectivement, ils s'éplient, ils demandent le personnage, donc les têtes, le buste, bon, c'est moi qui gère, donc parfois, ça dépend dans quel stade, phase, ou pose, ou situation. Mais il faut pas que ça devienne quelque chose qui explose trop dans la direction des œuvres d'art offertes, parce que là, une notion de dédicace commence à disparaître, et là, on est dans quelque chose qui dépasse complètement les normes et la raison. Donc j'essaie de me défendre, d'autre part je les gâte. Hein. Je les gâte souvent, mes lecteurs, c'est vrai. Là où il a une petite minute de plus, et j'essaie de mettre un peu plus. Parce que, enfin, soyons généreux, hein. On arrive dans un festival et pour une séance dédicace, pour ces contacts, pour eux, c'est souvent un merveillement. Donc ils essayent, en papotant, en posant la question de prolonger cet instant. Moi, je sens la manœuvre, mais je me prête facilement, et c'est comme ça. Mais effectivement, pour souligner, c'est surtout le personnage, ça a de l'importance, et là, je vois des préférences. Mais ça aille souvent dans tous les sens aussi. Hein. Enfin, un shérif, un policier, les gens ont toutes sortes d'idées. Ouais.
Au niveau de votre actualité, puisque là donc c'est la fin de la série Halloween Blues, donc je suppose que ça peut repartir sur autre chose maintenant. Pour l'instant c'est un peu la promotion de la série, hein, puisque maintenant qu'elle est dans son ensemble et qu'elle est drôlement bien ficelée, faut le dire. Eh bien, je suppose qu'il faut un petit peu la mettre en avant maintenant qu'elle est complète. Mais est-ce que vous repartez déjà sur une autre série ou un autre projet?
Oui, évidemment, on peut pas s'en passer. Non. On fait la brève pause. La mienne consistait à plusieurs festivals, plusieurs déplacements. C'était assez violent parce que tous les week-ends, j'étais parti. Franchement, j'ai posé mes valises, heureusement accompagné de ma femme, hein, qui m'a épaulé dans ces épreuves. Mais là, j'acceptais sous les coups trop, hein. Parce que je voulais donner le max à la sortie du dernier album. Donc on avait évidemment la France et la Belgique, et on avait même Portugal, la Pologne. On a fait dans l'exotisme aussi. Et franchement, juste à la sortie et après, ça n'arrêtait pas. Maintenant, je suis calmé un petit peu. Et voilà, on pense à l'avenir. Et je fais plus que penser à l'avenir. Il y a déjà un projet qui est en route. Autre chose. Donc on fait la pause vraiment avec cette idée de Halloween Blues. Et voilà, il est toujours vivant, hein, cet éclat. La série va tourner encore un petit moment. Et effectivement, comme vous dites, et la boucle est bouclée. Mais même aujourd'hui, j'ai des nouveaux lecteurs ici sur les festivals, sur les stands, qui découvrent. Donc tout le boulot n'est pas fait, et c'est la meilleure chose qui peut arriver à un auteur. Hein. Des nouveaux lecteurs, c'est-à-dire il y a encore un terrain à conquérir, il y a des recoins à exploiter. Donc ça ne peut pas qu'à me à me plaire profondément. Donc beaucoup d'espoir encore autour de cette série. Évidemment, on va voir avec le temps intégral et tout et tout. Il y a une porte très ouverte. Juste la dernière case du dernier album, ça peut laisser présager. Et pas une suite, parce qu'il n'y a pas de moyen. Hein. La réponse a été donnée, donc on ne peut pas continuer bêtement. Ça, c'est ça veut dire décrédibiliser totalement la série. Non, non, non. Par contre, une voie nouvelle ouvre, à mon sens, dans direction très difficilement prévisible. Hein. Et Mythique a des idées. Il y en a beaucoup de ces voilà, côté cuisine et côté et public qui sont intéressés. Et moi, je dis pas non, je dis pas oui. Tout simplement, je fais la pause. La pause va durer, et je vous dis tout de suite, 2 ans, parce que je suis parti avec un autre projet dans la même maison d'édition, au Lombard, dans la collection signée, avec un diptyque. Ça veut dire 2 volumes, des fois 62 pages. Un autre décor, autre problématique. Nouveau défi graphique alors, et donc je vais me chercher un peu, je suis déjà en partie trouvé moi-même, et comment je vais le faire, j'ai abordé des premières planches, j'ai une panoplie, toute une galerie de nouveaux personnages, donc je suis quelque part, j'ai un pied ailleurs, et dans mes pensées je suis quelque part ailleurs aussi, et je trouve ça c'est une bonne chose, hein. On ne peut pas vraiment rester sur les acquis, hein. Et maintenant, le moment de vérifier à nouveau mes capacités de changement. Je relève le nouveau défi avec un scénariste plus jeune que moi, donc voilà, très prometteur, et un Français. Et le sujet, pour ne pas en trop parler, parce que quand même, ce n'est pas le monde de dévoiler, c'est le fin, c'est la belle époque, donc fin du 19e, début du 20e siècle, Paris, à belle époque, elle n'était, croyez-moi, sur la parole, pas toujours si belle que ça, et surtout pas pour tout le monde. Donc voilà, ça vous plante déjà le décor. Et au niveau d'ambiance, au niveau de thématique, on est à des années de lumière de Halloween Blues. Donc voilà, ça me change.
On va finir par une question un peu spéciale, mais qui va bien avec Halloween Blues, je trouve. Si vous aviez le choix, est-ce que vous préfériez le don d'ubiquité ou la vie éternelle?
Non, non, franchement, ça me surprend. Non, la vie éternelle, ça va être chiant quand même. Hein. C'était même inimaginable, non. Donc, je prends la première solution. Non, non, non. Non, non, mais vivre éternellement, c'est terrible. Hein. Vous ne trouvez pas? Ah non, mais c'est beau, mais c'est tellement beau que c'est terrible. Hein. Non, non, donc, non, 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 absolument. Non, 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 non. Je refuse à la vie éternelle. Non, non.
Un dernier mot?
J'embrasse tous les auditeurs. Puisque je peux recommander, c'est d'abord pour ceux qui ne connaissent pas Halloween Blues. Je mets à disposition cet album et moi-même dans les salons, le festival pour dédicacer. Et puis, bonne chance à tous et bonne lecture. Hein.